Rencontre avec, proposée par Gérard Bouillaguet.
Bonjour à toutes et tous, c'est Rencontre avec. Et alors, chers auditeurs et auditrices, si vous nous écoutez depuis quelques années, eh bien vous vous souvenez certainement d'Esther Martinez.
Très bien dit. Bravo.
Martinez en berrichon. Voilà. Et qui nous avait gratifié pendant des années d'émissions écologiques. Eh bien, la revoici. Il y a eu une conférence qui a été donnée par Esther Martinez à Bourges. Et ça parlait de quoi, alors ?
Eh bien, je peux faire un résumé en disant que ça parlait d'une nouvelle pratique funéraire qui est en parfaite harmonie avec le processus du vivant. Je vais parler de la vie et de la mort. À partir de cette pratique funéraire, c'est-à-dire je ferai un plaidoyer pour l'humusation. On a appelé ça l'humusation, qui est bien sûr un néologisme, comme un certain nombre de néologismes créés par rapport à d'autres types aussi des funérailles, plus écologiques que ce qui autorise la loi aujourd'hui dans nos pays européens et ailleurs aussi. Donc, l'humusation.
Alors, ça vient de humus.
Évidemment. C'est humus, qui est la même racine indo-européenne que humilité, humus, humanité. Et c'était, vous savez, l'indo-européen qui s'est transformé par les latins bulgaires, les latins, et les langues se sont formées à partir de là. Et nous avons les synonymes, humilité, et voilà ce que je viens de dire.
Oui, c'est une riche famille.
Tout à fait. Je voulais quand même faire un petit constat de pourquoi on en est là. Je suis l'ambassadrice d'une fondation pour l'humusation et on est parti pour arriver à l'humusation d'un constat de la situation. Et là, j'ai plaisir à citer Victor Hugo qui nous disait « C'est une triste chose de savoir que la nature parle et que les hommes n'écoutent pas ». Je ne vais pas venir sur les constats, mais on sait bien que, de par mon travail, comme tu sais, j'ai exploré depuis les années 72 un peu l'évolution de cette société et qu'aujourd'hui me semble être obsolète. Il faut probablement un changement de paradigme étant donné les résultats par rapport au sol, par rapport à l'eau, par rapport à ça. Alors, Victor Hugo, c'était quand même une sacrée prémonition. Qu'est-ce que nous souhaitons qu'est-ce que je voudrais vous faire passer ou vous dire par rapport à ces plaidoyers que je vais faire pour l'humusation? C'est-à-dire que je voudrais, ou non, voudrais réinscrire l'humain dans les cycles du vivant grâce à ce mode de sépulture qui est régénératif. Et avec ça, contribuer à changer le regard que nous avons sur la mort, sur la vie et sur la société d'une manière générale. En fait, c'est une question d'imitation de la nature. L'homme et la nature ne font qu'un. Protéger la nature, c'est préserver l'avenir de l'homme. C'est notre avenir. Bon, tout le monde l'a déjà dit, c'est là, mais la nature s'en sortira d'une manière ou d'une autre. C'est l'espèce humaine qui est celle qui, probablement, la seule, qui est en train d'aller vers un suicide collectif. Mais tout la nature, fait. Il faut savoir qu'elle va s'en sortir. Je suis revenue à mes classiques concernant les sols, la nature, les arbres, la forêt, la vie de la forêt, l'écosystème des forêts. Et j'ai envie aussi de parler de Francis Allais. J'ai ressorti tous mes documents. Et il nous disait « l'arbre ne devrait pas nous laisser indifférents ». Le sage, lui et vous, une admiration sans borne. Quand je regarde les philosophes aussi que j'ai ressorti de mon imaginaire, puisqu'à l'origine, comme tu le sais très bien, je suis philosophe, reconverti en écologiste par la force des choses et de mes différents boulots.
Est-ce qu'il ne serait pas opportun de préciser qui est Francis Allais ? Parce qu'on connaît la comète, mais c'est pas le même.
Francis Allais, c'est un grand biologiste, voilà. C'est un ingénieur agronome qui aujourd'hui travaille beaucoup pour des forêts naturelles. Il essaye de créer en Europe, là tout de suite, en Europe de l'Ouest, non de l'Est je crois, une forêt comme la forêt primaire.
Voilà, c'est
il
ça.
Passe un temps, beaucoup de temps en Amazonie pour voir les forêts et il prétend, et il essaye de faire avec d'autres scientifiques, créer une forêt naturelle comme les forêts primaires. Il travaille aussi avec Ernest
Zierer.
Voilà, Zierer, dont oui. Je te parlais tout à l'heure, Zierer, par oui. Les arbres. Alors, c'est une bonne inspiration pour moi. Et pour lui, il y a simplement l'utilité de la forêt, de l'arbre, mais aussi la beauté. Et l'être humain, pense-t-il, devrait s'en inspirer. Et c'est ce que nous avons fait avec ma fondation. Nous inspirer de la nature pour trouver ce processus. Pour cela, je viens parler de l'humus. L'humus, bon, on sait comment les sols se forment. On apprend, je crois, ça. Je crois qu'on l'apprend
à l'école. Oui.
À l'école,
science et vie de la terre.
Les rudiments. On va apprendre qu'on a une couche minérale qui est la plus pauvre en matière organique, mais par la suite, c'est la couche organominérale qui est un mélange des minéraux, du sol avec l'humus, etc. Et puis, à la fin, on a juste une frange de 20 cm, et c'est l'humus que vraiment la couche en surface de la terre et qui est très riche en matière organique. Juste pour que nos auditeurs se rendent un peu compte, j'ai trouvé une affiche de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, qui dit exactement, à l'occasion de la fête des sols, ou la journée mondiale des sols, on célèbre la journée des sols le 5 décembre. Et à cette occasion, j'ai trouvé un dessin que j'ai devant moi, je ne peux pas le montrer parce qu'on est à la radio. Il existe plus d'organismes dans 5 cuillères à café des sols sains que des personnes sur la Terre. Bon, ça pour dire que nous sommes avec une microfaune microscopique et dans la forêt, toute cette faune va servir à travailler tout ce qui se trouve dans la forêt. Ça va des mammifères morts, des petits mammifères, des mammifères plus grands, et les feuilles qui tombent, les déjections des différents animaux, et tous ces animaux vont aérer la terre en faisant des galeries, et ils vont découper les morceaux de matière organique, les couper, et c'est cet écosystème de forêt qui nous a orienté pour proposer l'humusation. Évidemment, on a dans la forêt, on a le soleil, on a la chlorophylle et on a ce qu'on sait qui est l'origine de la vie, la photosynthèse avec l'oxygène qui l'absorption du CO2 par les feuilles et puis elle va sortir de l'oxygène. Ça, c'est dire que les forêts et l'écosystème forêt est vraiment fondamental. Pour les petits organismes, il y a, enfin, on les connaît, depuis ceux qui nous embêtent dans nos jardins, les escargots, etc. Puis on peut arriver beaucoup plus loin avec de tout petits bactéries, virus, etc. Le colambelle, je ne vais pas faire toute la description. Et ensuite, la forêt se développe elle-même, parfois simplement, c'est un jet, souvent, les déjections, il va avoir des graines, à partir de là, ça va se développer, des arbres, et puis au bout d'un certain temps, nous avons une forêt très très riche et absolument nécessaire pour l'équilibre de la Terre et de la planète et de la biosphère.
En fait, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que la forêt crée son propre sol.
Tout à fait.
Voilà.
Avec.
C'est les débuts qui sont difficiles.
Peut-être, oui. Ça, si on veut remonter jusqu'à nos origines, je te recommande plutôt de lire Francis Allais, qui va très très loin dans tout ça. Moi, j'ai pas les compétences. Mais alors après, on me demande parfois, mais oui, mais la mort. C'est un peu morbide ton histoire, mais non, la mort est une partie tout à fait essentielle de la vie. C'est aussi d'une certaine façon aussi remarquable que la naissance. Moi, je sais pas pourquoi. La naissance, on fait toute une célébration, et la mort, on l'occulte.
Mais oui, c'est les fleuves, on parle beaucoup de la source des fleuves,
oui.
Et on parle quand même aussi un peu de leur estuaire.
Oui,
et
quand même.
Pour nous, ben, on ne fait pas ça.
Surtout pour les oiseaux migrateurs, hein, c'est très important les estuaires.
Les estuaires, oui.
Mais la mort, il faut un petit peu parler d'une manière décontractée. Quand j'ai, comme je te disais, j'ai revisité mes philosophes, et j'ai ressorti depuis Héraclite et puis Épicure, qui était considéré comme un grand matérialiste, mais Héraclite, mais matérialiste, mais tout à fait dans le sens de la matière, mais pas du tout. Et pour lui, la mort, c'était une partie de la vie dans la mort et la mort dans la vie. Héraclite disait carrément mourir de vie et vivre de mort. Je cite ça parce que je suis en contact avec Edgar Morin, là, pour des tas de raisons. Et lui, il cite toujours Héraclite par rapport à ça, si vous lisez les écrits d'Edgar Morin. Alors, bah, après, des gens comme Montaigne, pour lui, c'est tout à fait anormal que l'homme, que nous n'acceptions pas la finitude. C'est ça aussi qui nous amène aujourd'hui à considérer que dans un monde fini, on peut continuer indéfiniment à exploiter un certain nombre de choses, depuis les minéraux en passant par. Donc, je pense que reparler de la mort, s'intéresser à la mort, c'est plutôt quelque chose de positif, et pas comme je t'ai raconté, comme « quoi, tu deviens morbide avec ton immunisation ?» Pas du tout. Je pense être plus dans la vie que beaucoup d'autres qui ne souhaitent pas en parler. Alors, bon, ça c'était... Il y a aussi, là, j'ai beaucoup revisité André Comte-Sponville, philosophe humaniste, aussi très très admirateur de Montaigne, et qui, pour lui, c'est « si on n'aime pas la vie, on a très peur de la mort. Mais si on aime la vie, on n'a pas peur de la mort. On la vit, la vie. Et tant qu'on est vivant, eh ben, la mort n'est pas là. Et une fois que nous sommes morts, eh ben, la mort, hein, n'est pas là non plus. » Enfin, je ne sais pas si je l'ai dit dans le bon sens.
On ne meurt qu'une fois, en quelque sorte.
Oui, mais si voilà. Tu veux, ce n'est pas la peine de te tracasser tant qu'elle n'est pas là. Et une fois qu'elle n'est pas là, tu es mort, toi. Tu vas mourir. Donc, c'est avoir une attitude plus ouverte vis-à-vis de la mort. J'ai acheté un ouvrage. Je le dirai, s'il y a des auditeurs, ils peuvent nous écrire. Parce que là, je n'ai pas en tête. C'est une maman qui raconte la mort à sa fille. Et la mort racontée à ma fille. Je ne sais pas si tu le connais.
Non, je n'ai pas.
C'est très
ça,
intéressant. Ouais. Parce que beaucoup d'enfants, tout d'un coup, il y a quelqu'un des proches qui meurt, et c'est des histoires où le ciel où là, s'est transformé en oiseau. Et en fait, elle a fini par dire les choses simplement mais à sa fille, et elle a trouvé que leur relation et les accidents de vie qu'il y a eu dans la famille étaient beaucoup plus simples pour la fille. Bon, je m'éloigne trop. On va...
Non, parce que c'est une question qui va se poser de manière cruciale, ça. Le rapport que nous avons à la mort conditionne très largement l'organisation des obsèques d'une façon générale.
Exactement.
Et donc, Alors, de l'humusation. Allons-y, l'humusation.
Je pense qu'avec l'humusation, et je reviens plus dans les détails, et que bien sûr, la fin de vie, c'est souvent déchirant, mais ça peut être beau, la fin de vie peut être belle. Et il faut parler de notre mortalité, peut être réconfortant, et prendre soin de la mort, de mon point de vue, moi, peut être tout simplement guérissant, guérir de beaucoup de choses. Alors, c'est l'humusation... La fondation s'appelle « Donner la vie après sa mort en régénérant la terre ». Alors, il s'agit d'un processus contrôlé, très important, des transformations des corps par les micro-organismes du sol, comme on a vu tout à l'heure, on appelle les détritivores, ou les humusataires, et ça, la transformation par ces micro-organismes va donner un compost qui est composé des broyats des bois, de la gage, et qui va transformer en 12 mois la dépouille mortelle en humus sain et fertile. Si on tient compte qu'il y a 60 millions par an de morts dans le monde, alors ça représente 3 milliards de tonnes de matière organique. Je reviendrai pour expliquer les comment. Alors, l'humusation, je la présente en 4 étapes. Et pour expliquer un petit peu comment ça marche, on imagine qu'on pourrait trouver un terrain qu'on appelle le jardin forêt de la métamorphose, parce qu'il s'agit d'une métamorphose. Hein. Notre corps disparaît et ça va donner lieu à des plantes, à des arbres, etc. À ces terrains clôturés pour protection, avec un emplacement à peu près de 6 mètres carrés par défunt, et il faut que la dépouille reste pendant 12 mois. Alors, on peut quand même, pour la famille, mettre une stèle pendant ce temps-là, parce que c'est très important, tous les rituels qui vont avec la mort. Alors, et là, on peut mettre les noms du défunt, etc.
On parle de la dernière demeure, mais là, ce n'est pas la dernière.
Non, là, on est dans une période intermédiaire, et je vais expliquer les pourquoi. En fait, on va créer, avec, comme je le disais tout à l'heure, avec le des lagages et de la lignite, mais très, très broyé, très...
C'est ce qu'on fait quand
on
fait
de l'eau, gorgé d'eau, oui. C'est très très important. On dépluie.
C'est ce qu'on fait quand on fait du compostage dans son jardin. Hein.
C'est le compostage du corps humain.
Oui, tout à fait.
En gros. Alors, il faut aussi être très attentif pour qu'il y ait assez d'eau. Donc, on a prévu récupérer l'eau de pluie qui va nous servir pour tenir ces mélanges.
Il n'y a pas besoin que ce soit de l'eau bénite.
Enfin, là, pour certains, peut-être. Pour moi, non, mais si certains le souhaitent, qu'ils fassent venir qui les droits pour venir l'eau, pourquoi pas? Ça ne me pose aucun problème, personnellement. Alors, il faut ajouter aussi ces techniques, des accélérateurs de décomposition naturelle, et puis aussi, il faut ajouter un petit peu d'argile. C'est complexe, et ne me demande pas de rentrer dans les détails, parce que j'aurais du mal.
C'est très technique.
C'est technique, ouais. Mais je n'ai pas assisté en direct, mais j'ai un ami qui fait partie des réseaux citoyens du compost et qui a fait une expérimentation. Et bon, il m'a montré, il voulait m'offrir un bocal avec le compost. Je l'ai senti, ça sent la forêt et c'est très bien.
Sûr, ouais.
Mais avant ça, il est passé par les étapes que je vais décrire. Donc, on va l'amener dans un cercueil qui est réutilisable. Pour nous, c'est très important. C'est-à-dire, il va être enveloppé dans un simple linceul biodégradable. Évidemment, on va pas mettre des tissus qui sont issus du pétrole. Et puis, très important aussi, il est subi des soins de conservation. Je parle exactement de la thanatopraxie.
Ah oui, oui. Qu'il soit nature.
Tout à fait nature.
Voilà, c'est ça.
Non, non, mais c'est notre pari. Hein. Alors, il est donc posé sur un lit végétal assez douillé, qui fait 20 cm à peu près. Et puis, on va le couvrir complètement à peu près la même quantité. Et puis, on la couvre d'un mélange de paille, feuilles, tentes de pelouse, enfin tout ça. Et on va les laisser, tout ça, surveiller. Tout ça, c'est un terrain clôturé avec des humusataires que nous avons déjà imaginé la formation et le cycle de formation qu'ils vont subir.
Ah, c'est un nouveau métier.
Ah, carrément, les humusataires. On pense qu'au niveau du travail, ça va créer beaucoup d'emplois. Et au bout de 3 mois, plus ou moins, c'est pas plus ou moins. Alors, les sauces, lui tout seul, vont être nettoyées, détachées des uns des autres. Et à ce moment-là, les humusateurs agréés vont être formés pour pouvoir, au bout des trois mois, ouvrir et pouvoir retirer facilement, c'est déjà fait par les détritivores, par les micro-organismes un aérobie avec de l'air, l'eau et tout ce qu'on vient de dire. Alors, on va pouvoir retirer ce qui n'est pas possible de composter, c'est-à-dire les prothèses métalliques, ce qu'on peut avoir dans les hanches, les pacemakers, les amalgames dentaires, etc., etc. Et encore, parce que les amalgames dentaires, la plupart des fins ont des amalgames. Et pour les personnes les plus âgées, maintenant, on n'utilise plus le mercure, mais on l'a utilisé. Et là, c'est quand même un sacré problème, mais il y en a encore. Donc ça, on retire tout ça et on va réduire les sauces et les dents. On va les broyer carrément et on va faire une poudre qu'on va mélanger avec le reste. Par la suite, on attend, toujours surveillé par des humidificateurs, toujours en prenant la température, parce que les charognards ou autres, à partir du moment où on arrive à 60-70, il n'y aura pas les odeurs qu'il peut y avoir s'ils sont plus en surface. Mais malgré tout, il faut exercer une surveillance autour pour que les choses se passent le mieux possible. Et après des 12 mois...
En fait, c'est une sorte de cimetière.
Oui, fermé, tout à fait. C'est-à-dire que là, on a imaginé pour démarrer, parce qu'il y a déjà un centre en Belgique, qu'il y aura 6 à peu près, hein, dans un premier temps, et puis après 6, etc. Et après, c'est en fonction des installations qu'il va y avoir. L'idéal, ce serait qu'il y ait dans chaque département l'équivalent d'un humusarium, encore un néologisme, comme il existe les crématoriums.
Humusarium, oui, c'est logique.
Ça, je dis que ça comme ça, mais c'est probable qu'on aille vers ça. Hein.
On va en parler à l'académie.
Voilà, et alors une fois que les 12 mois sont passés, toutes les cellules mortelles se sont métamorphosées. Pour ça qu'on parle du jardin de la métamorphose, pour donner, comme je te disais, 1,5 m de humus humain fertile. La famille pourra disposer de l'équivalent d'un pot, tu sais, un terreau, 15 litres pour planter un arbre ou ce qu'ils voudront. Et puis le reste, c'est une récupération. On a imaginé aussi la création des bois du souvenir où ces arbres qui vont pousser avec l'humus de la personne qu'on a perdue et que vont constituer un jardin du souvenir. Et ce qui est des humusateurs agréés vont planter 99 arbres pour régénérer les sols et malmener les sols où il y a eu des industries, où il y a eu beaucoup de pollution. Les stations d'essence, par exemple, où il y a eu beaucoup d'industries, où c'est pollué. Et ils sont considérés, il y a toute une législation autour de la pollution, mais ça pourrait, pour les bouts de dragage, pour des gens très malmenés, cet humus, nous proposons qu'il soit utilisé pour les régénérer.
99 arbres, d'où sortent avec un seul cadavre.
Oui.
99 arbres.
Oui.
Ah, voyons.
100, si tu veux, j'arrondis.
Oui, d'accord, oui.
Ah, bon. J'arrondis.
Vieille branche.
Si ça te gêne, on arrondit un petit peu. Alors, voilà, ça c'est...
En fait, pour résumer le processus, donc, il y a un processus qui commence par, je dirais presque du jardinage, du compostage.
Ouais,
qui dure un certain temps.
Oui.
Ensuite, ça se passe un petit peu comme pour une crémation, où on donne à la famille une urne pleine de cendres. Là, c'est du terreau, c'est de l'humus à la place. Et puis alors après, le reste qui n'a pas été laissé à la famille servirait à régénérer des sols pour planter des arbres. C'est ça, j'ai tout compris.
C'est qu'il y a quand même des avantages
au niveau
pour moi personnellement et pour d'autres, vraiment spirituels et psychologiques, parce que c'est vraiment une reconnexion à l'intelligence de la nature, ce qui nous manque cruellement aujourd'hui. C'est aussi un sentiment de bien-être et d'accomplissement. Personnellement, depuis que j'ai donné au maire de mon village une lettre de dernière volonté où je lui dis que je vais être au musée. Je mets ça, et comment? Et j'ai donné des instructions pour récompenser le carbone que dans toute ma vie j'ai utilisé. Et ben, je sens une sérénité et un rapport à l'amour joyeux. Quand je pense que je peux servir, moi qui me suis efforcée, avec toutes mes contradictions, mes paradoxes, tout ce que tu voudras, de vivre un écologiste, faisant attention à un certain nombre de choses, j'ai dit avec mes contradictions, c'est quand même intéressant d'imaginer que je vais servir à régénérer des sols, à faire pousser la vie, être dans la vie. C'est un avantage, donc, comme je disais, spirituel et psychologique, mais même on peut dire que c'est au niveau foncier. C'est intéressant de baisser l'empreinte foncière.
Alors voilà, ça c'est un autre avantage qui est social, c'est que on marche sur nos morts depuis que l'humanité existe. J'ai fait le calcul, 60 millions de morts par an.
Oui.
Alors, si on prend pendant 1000 ans, ça fait 60 milliards. On est moins que ça, hein. On est 6 milliards.
On arrive déjà à 7,5, oui, 7, on oui. calcule...
Oui, non, mais je veux dire que...
On calcule 9...
Le problème, c'est que les morts ont une longévité beaucoup plus grande que les vivants. Et le problème, c'est que actuellement, du moins par chez nous, selon les rites funéraires que l'on observe...
On en parlera, je compte en parler.
Il n'y a pas de recyclage, en fait, ça s'accumule.
Et ça s'accumule, pas simplement, c'est trop joli de dire ça s'accumule. Je dirais que c'est grave, parce que ça génère nos pratiques funéraires d'aujourd'hui, je vais décrire ça plus en détail,
oui, c'est très important.
Génère une pollution
terrible,
de
oui.
l'eau, une pollution de l'air et une pollution nocive pour la santé de la Terre et la nôtre.
Ouais,
et
morts.
Là, c'est, ça, au lieu d'être neutre, oui, là, oui, disant... Oui, oui. Non, non. Et puis, il y a aussi la création d'emplois, comme on a parlé tout à l'heure. Et aussi, on va créer des forêts qui sont des îlots de fraîcheur pour les gens. Moi, je trouverais plus sympathique, tu sais, quand je vais dans mon village en Espagne et je vois les caveaux des familles, c'est assez triste. C'est pas joli du tout. Bon, mais il y a ma mère qui est là, mon grand-père, mes grands-parents. Alors, j'adorerais que mes petits-enfants et arrière-petits-enfants, ils puissent se promener à un endroit où ils disent, tiens, la boue est là. C'est en espagnol, la boue est là, Estelle. Elle est par là. Enfin, elle a servi à régénérer tout ça. Et je suis pas la seule à penser ça. Plus ça va, plus il y a des gens qui trouvent ça plus... Cette reconnexion avec la nature comme aujourd'hui, très nécessaire par le temps qui court, avec des tas des virus malveillants, appelés alors, Covid, avec beaucoup de dénominations, etc.
Dans l'idéal, on pourrait léguer son corps, non pas à la science, mais à la on botanique, peut. Et éventuellement à une plante particulière.
Oh, ça c'est après la partie personnelle de la famille, voilà. Quand ils vont prendre...
Moi je veux qu'on pense, qu'on
Moi,
plante
je voudrais
du bambou.
Un poirier, j'ai déjà raconté. Il y a un article qui circule Var Matin et Nice Matin,
ah,
où les journalistes
loin,
m'ont posé la question et j'ai dit qu'un poirier me plairait beaucoup. Du coup, je suis la varoise qui milite pour l'humusation et qui rêve de devenir un poirier.
D'accord. Il y a des gens qui sont enterrés dans un coin et toi, c'est dans une poire.
Mais je suis une poire, moi. Ça, c'est bien
bonne,
connu.
Bonne.
Alors, bon, et puis parmi d'autres, mais il y a l'avantage et les coûts financiers et on ne peut pas les négliger non plus.
J'aimerais qu'on revienne sur la pollution entraînée par la mise en bière, en fait, des corps, parce que c'est très important et les gens n'y pensent jamais. Et c'est très grave.
Alors, aujourd'hui, les funérailles, la loi dit qu'il faut avoir un cercueil. Aujourd'hui, les cercueils, c'est peuvent depuis très peu être fabriqués à partir des matériaux biodégradables, c'est-à-dire le bois. En
oui.
général, c'est le bois. Il faut un mètre cube de bois est nécessaire pour la fabrication de 6 cercueils. Toi qui aimes bien les chiffres, tu vas calculer et tu vas voir que avec en France, ça fait 603, ça c'est des recensements de 2017. Là, je crois qu'il y a un peu plus. 603 000 décès, tenant compte de ce que je viens de te dire, ça va faire 1650 lait par jour. Tu continues à faire les calculs. Moi, j'ai une petite note que je regarde, donc. Et ça fait un décès toutes les 54 minutes, secondes, pardon. C'est-à-dire un total de 100 000 stères de bois.
Et oui, c'est
qui
ça.
Qui sont enterrés.
Oui, oui, oui.
Bon, et ça, chaque année en France. Alors...
Alors, ça fera du pétrole un jour, mais il faut attendre des millions d'années. Bah,
on avait parlé déjà. Quand j'ai fait les émissions sur les énergies, je t'avais raconté que le pétrole, c'était de la matière organique pourrie, mais qui a mis des millions d'années à pourrir, et que nous, on les avait utilisées vite fait. Voilà. Et que pour en refaire, c'était long. Tu te souviens de tout ça?
Oui.
Pour, tu es un bon élève. Hein.
Je m'étais renseigné pour savoir si on pouvait avoir un cercueil en carton. En carton recyclable.
Si, ça s'est
fait. Ce n'est autorisé que pour la crémation.
Voilà, la crémation même, c'est...
C'est-à-dire
oui,
là où ça sert à rien.
C'est autorisé pour la crémation, voilà. Parce
mais
que c'est
là,
plus
hein.
facile.
Ouais.
Alors, je te disais donc tous ces chiffres qui font... Et puis, bon, souvent, les bois, il est vernis. Bon, les vernis, on sait très bien. Et puis, il y a un capitonnage à l'intérieur aussi, avec des tas de choses pas tellement biodégradables. Donc, pour moi, là, on va prendre l'inhumation et la crémation à part. L'inhumation est un procédé très polluant. J'avais, jusqu'à là, là où j'ai pu... j'ai fait des présentations... j'ai toujours dit que c'est les plus polluants. Maintenant, il y a des études qui essayent de montrer ça. Je n'ai pas les détails, mais c'est un procédé polluant. Il dégage presque... Je parle d'inhumation tout de suite. On vient à la crémation. 4 fois plus de CO2 que la crémation et représente à peu près 11% des émissions annuelles d'un Français.
On pourrait penser comme ça simplement que... Au fond, l'inhumation, c'est un petit peu comme l'humusation, sauf que c'est moins technique, c'est moins étudié, ça prendra certainement plus de temps. Et en fait, c'est faux.
C'est archi faux.
Voilà. Faut
c'est
bien
la
préciser.
Mort, ça c'est vraiment la mort, et nous c'est la vie. Et
il faut vraiment préciser ça.
Et aussi, si on déroule un petit peu, c'est là, les caveaux sont fabriqués en béton. Les bétons, c'est quand même,
tu sais bien,
la composition du béton, les polluants, les liens, c'est connu. Et ce qu'on fait, parfois, jusqu'à 10 litres de formol pour mettre les cadavres visibles pour la famille. Et là, les pompes funèbres font souvent les forcines pour amener les gens à demander la thanatopraxie, qui demande aussi bien pour l'inhumation que pour la crémation.
Oui.
Quand on met, pour que les chairs restent plus fermes, que ça ne se décompose pas vite et tout ça, quand on met 10 litres de formol, ou des choses comme les formol, eh ben, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est des formaldéhydes, des paraformaldéhydes, etc., etc., etc.
Mais
Encore qu'un léger maquillage, pour pas, je sais pas, quelqu'un qui a subi un accident, qui est tout déformé, et que pour la famille, c'est extrêmement complexe.
On peut le faire, mais on
ne met pas 10 litres à l'intérieur. Ah, on peut mettre un peu moins, paraît-il. Ouais. On me disait quelqu'un, oui, peut-être, mais entre 8 et 10, moi, en gros, c'est... La pollution est quand même là. Hein.
Je reviens quand même à mon idée. C'est qu'au fond, le vrai problème, c'est le cercueil.
Ah non, le vrai problème, c'est de mettre les cercueils avec les capitonnages, avec la thanatopraxie, à 2 mètres du sol.
Oui,
là, il n'y a plus de vie. On est en anaérobie.
Voilà, c'est ça. Le cercueil,
le cercueil
est étanche au point de vue de l'air. Et c'est là que la pollution est terrible.
Normalement, quand tu laisses les cadavres comme ça, il y a une étude de Paris, celle-là je l'ai lue par contre, qui prouve la grande pollution autour du cimetière. Moi j'ai demandé au maire de mon petit bled, parce que le cimetière il est en pente, et puis ça se percole dans un ruisseau tout près, et je lui ai dit au maire, écoutez, on va faire, si vous avez des doutes, peut-être que l'humusation vous n'êtes pas encore convaincu, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'inhumation, c'est pas bien du tout au niveau de l'écologie, mais la crémation non plus.
Oui.
On n'est peut-être pas pour l'humusation, ça pose des problèmes, mais on est sûr de ce qui se passe avec l'inhumation et la crémation. Ça, c'est une réalité.
Donc, c'est quoi les délicieux produits qui sont le résultat de la destruction des corps en milieu anaérobique?
Les produits qu'ils mettent, c'est souvent de formol, de dérivés, non?
Les produits que la destruction du corps...
C'est de la putrescine et de la cadavérine.
Voilà.
Ça, c'est connu.
Ça paraît naturel, parce qu'au fond, ça part d'un produit vivant au départ, mais c'est en fait extrêmement toxique. Et pour les nappes phréatiques, tout, c'est mauvais.
C'est la transformation en dioxine. La dioxine, tu te souviens?
Alors, ça, c'est pour la crémation, c'est pareil.
Pour la crémation, là, oui. je suis revenue à la crémation. D'accord. Maintenant. Pour la crémation, tu ne peux pas détruire un corps humain comme ça. Et un corps humain, nous sommes constitués des 80% d'eau. Alors, et ce n'est pas tout à fait facile de faire la combustion lorsqu'on a un corps avec tant d'eau. Alors, pour ça, il faut mettre les paquets. C'est-à-dire, ça démarre à 900 degrés, ça me rappelle la céramique, et ça arrive souvent à 1100 degrés.
Oui, oui.
Donc, et pour ça, ça ne se fait pas tout seul. Non, non. Ça te demande plus ou moins une heure et demie de combustion.
Bon. Et beaucoup d'énergie.
Ah ben, donc là, c'est encore... et puis la dépense d'énergie fossile est environ de 200 litres, équivalent mazout. Alors, plus les bois du cercueil... Et puis ensuite, pendant la crémation, tout ce qu'il y a, les chairs, tout ce qui est pollution, comme les dioxydes de carbone, les CO2 en question, ou l'anhydride sulfureux, dont on a parlé beaucoup quand on avait parlé des polluants, les oxydes d'azote sont des rejets qui sont responsables des pollutions graves et ça crée des dioxines. Hein, on a connu les problèmes des plus acides, des dioxines, etc. Et aussi, ça va donner des particules, des fines, toutes fines, parce que ça a passé par une heure et demie de combustion, des métaux lourds, comme je t'ai dit, qui restaient encore dans certaines amalgames. Mais ça fait le mercure, le plomb, les cadmiums, etc. Donc, ces poussières fines, elles vont rester dans les smogs, dans les nuages qu'on trouve dans l'atmosphère. Alors, je pèse mes mots, c'est une catastrophe écologique. On n'a pas encore de preuves, mais les études vont continuer. Les problèmes de santé autour des crématoriums sont récurrents. Après, on va te dire, comme disait la mère, ah oui, non, mais attendez, madame, il y a des filtres là. C'est la loi qui a mis les filtres.
Oui, mon diesel aussi, il avait un filtre.
Les filtres, là, par contre, on a essayé de savoir. Les filtres, qui sont une obligation dans la loi. Mais dans les crématoriums, il me semble qu'il doit y avoir 170 crématoriums en France. Eh bien, la moitié n'ont pas les filtres.
Ah, déjà.
Donc, la loi l'exige, mais comme on ne va pas vérifier si ça a été fait. Et après, quand tu as les filtres, qu'est-ce que tu fais? Comme lorsque tu as pour ta hôte chez toi, tu les laves, les filtres. Tu les passes à l'eau. Et toutes les particules, ça va aller dans les cours d'eau aussi, dans l'eau. Donc, tu vois, je suis intarissable peut-être sur tout ça, parce que j'ai bien pris la mesure de ce que ça représente, c'est-à-dire une vraie catastrophe écologique avec les problèmes de santé qui vont avec. Et puis, il y a la possibilité d'éviter cela. La crémation, c'est relativement récent. En France, ça a commencé lorsqu'après le Concile Vatican II, l'Église a estimé que ça pouvait se faire.
Oui.
On a commencé petit à petit,
mais ça se faisait
3%, et on arrive, je crois, dans les 50 ou presque 45-50.
La moitié, oui. Mais ça se faisait bien avant pour ceux qui n'étaient pas croyants, tout simplement. Une petite remarque. Nous sommes très polluants avec nos pratiques
funéraires. Ah oui, j'ai oublié de dire ça.
Mais il y a d'autres civilisations qui le sont moins, finalement.
Explique-toi un petit peu
alors,
pour que je comprenne.
Par exemple, les hindouistes pratiquent l'incinération, mais avec du bois. Déjà, c'est déjà un progrès.
On est déjà dans une énergie renouvelable, voilà. En effet.
Les bouddhistes qui croient en la réincarnation, lorsque le terrain ne se prête pas à une inhumation, laissent les cadavres mangés par les animaux.
Oui.
Voilà.
Les charognards, ça c'est pratique encore.
Les musulmans, qui sont très nombreux chez nous, ils n'enterrent pas leurs morts dans des cercueils. Mais uniquement dans un linceul. Donc là, la décomposition...
Je ne sais pas ce qui est biodégradable. J'ai des amis, hein. Je vais leur demander, musulmans. Mais il faut qu'ils fassent attention, qu'ils soient biodégradables.
En tout cas, la décomposition du corps se fait dans un milieu oxygéné. Donc il n'y a pas cette production terrible de cadavérine, de putrescine.
Oui, mais c'est du gaspillage. Parce que ça ne devient pas un humus qui va régénérer beaucoup de terre.
Non, c'est vrai.
C'est un gaspillage, quelque part. Mais on respecte tout type de rituels et des funérailles.
Ce que je veux dire, c'est que si on veut faire des inhumations moins désastreuses sur le plan écologique, il y a quand même déjà quelques exemples qui existent,
oui,
pour le coup.
Oui,
hein, déjà. L'humusation, ce serait la technologie de l'avenir, plutôt. Hein.
Et tu crois que les gens de la campagne, il y en a beaucoup qui viennent se faire... qui viennent, qu'on les amène. Eh bien, oui. Il peut y avoir beaucoup de gens, dans la mesure où il y a un humusarium par département. Ils viennent de là où ils ont fait ces choix de leur vie, d'être humusés. Mmh. C'est-à-dire que, pour moi, c'est une question de liberté. Il y a la crémation, l'humusation, mais nous avons droit, en France, et en Espagne et ailleurs, à avoir le choix à d'autres types de funérailles. Donc, ce n'est pas pour autant que tout le monde se fait faire humuser ou se faire brûler. Mais on peut avoir le choix, et puis à un moment donné, tout ça, c'est... il faut l'infrastructure nécessaire pour pouvoir le faire, comme on a fait les crématoriums, il n'en existait presque pas.
C'est quand même une installation un peu technique, comme pour les crématoriums, effectivement.
C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins onéreux.
On se demande, qu'est-ce que défend la loi, au fond ? Parce que
c'est complexe.
La loi est donc laïque, par définition, maintenant, et donc elle ne défend pas une religion.
Non,
elle
je ne crois pas.
Je me demande ce qu'elle défend. Les pompes funèbres, peut-être
Peut-être. Là, tu sors ton côté très malin.
Mais...
J'ai quelques échos de ce que les pompes funèbres... Les pompes funèbres, c'est un marché, mais mirobolant.
Oui, oui.
C'est des milliards. Les pompes funèbres propose des services et des produits. Et ce qui est vraiment rentable, ce sont les produits. C'est-à-dire, ils vont présenter des cercueils ou des urnes, ils commencent là. Ils vont proposer dans les cercueils plus ou moins capitonnés, moins ou moins, etc., etc. Mais beaucoup de services, la thanatopraxie, etc., etc. D'après certains, les numéros de novembre 2018 de l'âge de fer, ils disent qu'ils poussent, les pompes funèbres, ils poussent les familles en deuil, qui sont prêtes à se saigner pour le père qui a été... Enfin, ça a créé un vide terrible et puis une espèce de compensation si on a des culpabilités. Donc on veut le meilleur cercueil, le meilleur ceci, le meilleur cela.
Je comprends bien.
Et ça pousse.
Mais
et ils risquent de perdre une partie de la marge bénéficiaire avec notre système.
Un peu. Mais le système, comme tous les systèmes, peut être aussi bien récupéré par des entreprises privées à but commercial.
Oui, mais pourquoi pas. Ça ne me dérange pas.
Oui, oui.
Je ne me dérange pas, c'est qu'ils les fassent, à condition qu'on puisse apporter un humus convenable à la Terre pour l'aider. Donc ça ne me dérange pas s'ils gagnent de l'argent.
Je reviens à mon idée sur ce que défend la loi. D'abord, on se demande toujours pourquoi la loi se mène de ces choses-là. Il doit y avoir une raison. Mais là, parce que nulle part c'est autorisé ça encore, hein.
C'est-à-dire, la manière, c'est ce que nous proposons, non. L'humusation, non. Mais d'autres funérailles qui se disent, eux, écologiques. Il y a des endroits où c'est autorisé.
Exactement.
Ce qui est une avancée importante, parce que, quels que soient les process, j'ai regardé en détail, je suis allée sur les sites, ils ont créé des sociétés, c'est moins mal que l'inhumation ou la crémation, mais ce n'est pas l'humusation.
D'accord. Ouais.
Il y a, par exemple, en Suède, il y a la promession, c'est pareil, mais la promession, c'est vraiment de l'azote liquide, on appelle ça lyophilisation aussi, et on met le corps dans sa, l'azote à moins 196 degrés. Bon, là, la personne, c'est une scientifique qui a trouvé ça. Et là, c'est la, c'est le docteur Suzanne Wick-Mazak. Et elle, elle a déposé, elle, elle exploite ça. Et en Suède, elle peut faire ça pour le moment.
Ça, c'est
et c'est à l'étude.
C'est de la congélation, simplement, quoi.
Pas tout à fait. C'est encore un autre système. Parce que là, c'est un peu plus sophistiqué. Je ne vais pas dérouler tout, mais c'est...
La mère qui mettait le cadavre de son nouveau-né dans le congélateur, finalement, c'était déjà ça.
Ça existe.
Ouais.
Pour mais... 200 000 dollars,
ah oui.
Aujourd'hui, un Américain s'est fait congeler,
ah oui.
Avec l'idée que nous allons avancer dans, dans l'étude des cellules, de la reproduction,
oui, oui.
Des organes.
Oui, c'est l'espoir.
Et
oui.
Que... Mais il y en a, j'ai des chiffres quelque part. Il y a la liquéfaction, c'est, ou l'aquamation, qu'on appelle funérailles vertes, et il y a Recompose, dans l'État de Washington, et à Seattle, qui a autorisé, la loi autorise, c'est fédéral, hein. Dans cet État, c'est autorisé, et c'est en route, je crois que c'est depuis 2020. Mais ont commencé à faire des réflexions et autres depuis 1992. J'ai eu l'occasion d'avoir un petit échange avec Catherine Spade, qui est, mais elle, elle a son système à elle. Hein, qui arrivera chez nous. J'espère que nous serons assez malins pour développer notre processus qui est français, européen. Et
voilà. Mais en fait, moi, je comprends pas...
Il faudra légiférer. Il faut passer par la loi.
Ben oui, mais justement, pourquoi la loi s'y opposerait ? La philosophie de la loi... je veux bien qu'elle soit imprégnée par la culture religieuse.
Non, mais il y a aussi des questions de salubrité publique.
Alors, mais justement, c'est pas très évident, ça. Hein.
Il faut qu'ils acceptent ça. Il y a des organismes, si tu veux, un conseil, l'ECNOF, qui aide, c'est un organisme d'aide à la décision pour les législateurs, hein, mais ça passe à l'Assemblée et puis au Sénat après. Et ben c'est pour le moment on a déjà présenté par l'intermédiaire d'une sénatrice et puis après ça a été refoulé et je trouve ça incroyable parce qu'ils disent qu'il faut respecter les
quoi?
Corps du défunt.
Le corps du défunt...
Non, mais il n'y a aucune explication scientifique à ce qu'il raconte.
Oui, on peut le respecter de multiples façons.
Oui.
Il y a l'âme du défunt, il y a le souvenir du défunt, il y a... Les Asiatiques pratiquent le culte des ancêtres.
Tout à fait.
Il n'y a pas de cadavre dans leur maison.
Et puis ils le rapportent à manger. Le faire, hein, ouais. Pas de problème chez soi. Par exemple, là, j'ai une copine, elle m'a signalé, après je suis allée compléter, qu'en 1887, il y a une loi qui dit, mais qui n'a pas été abrogée. Parce qu'en France, on fait toujours des millefeuilles.
On ajoute une loi, on ajoute,
et celle-là n'est pas abrogée, que nous avons le droit de faire les choix, de faire notre dernière volonté par rapport à notre corps.
Ouais.
Donc en fonction de ça, bon, mais tu comprends bien qu'on ne va pas s'élancer dans une querelle qu'on risque de perdre par rapport à ça. Il vaut plutôt convaincre comme j'ai fait aujourd'hui, hein, et comme je vais continuer à faire. Hein. Et nous sommes de plus en plus, donc c'est très très bien.
Voilà, eh bien, merci Esther, toujours radioactive.
Ah non, tu sais bien que la radioactivité, j'ai quelques appréhensions.
Au revoir à tous, à bientôt.
À bientôt.